BFM Business, BFM Bourse, les pros des cryptos.
L'avenir est le seul endroit où on est tous certains de passer le restant de nos jours. Et il se trouve que la blockchain détient une fraction de cet avenir. On va donc en parler. La blockchain, les crypto-monnaies, bien sûr, comme chaque vendredi, les pros des cryptos avec, toujours au téléphone, Xavier Fenot avec nous pour Interactive Trading. Claire Balva, elle vient de nous rejoindre. Bonjour Claire.
Bonjour.
Co-fondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain crypto pour KPMG France. Owen est avec nous aussi cette semaine en plateau. Owen Simonin, salut Owen.
Bonjour.
À la tête de Just Mining, connu aussi pour sa chaîne YouTube Asher. Êtes-vous prêts? J'espère que vous qui nous suivez, vous êtes prêts. Les nouveaux investisseurs sont sur BFM Business et vous pouvez suivre et retrouver les meilleurs moments des pros des cryptos sur notre nouveau fil Twitter BFM Crypto. Xavier, les cryptos ont donc mis un gros coup d'arrêt le week-end dernier à leur ascension. Le Bitcoin était passé au-dessus des 68 000 dollars. On avait touché des records et depuis, on a un peu plus de mal. Est-ce que le Bitcoin arrêté en plein vol, est-ce que c'est grave, docteur?
C'est vrai qu'on a connu quand même une très très belle année 2021, exceptionnelle hein, sur l'ensemble des cryptos. Et c'est vrai que le week-end dernier, encore une fois, on a eu un mouvement de panique. Encore une fois, on a eu des liquidations de positions à hauteur de 2 milliards de dollars dans la nuit de vendredi à samedi. Et encore une exposition trop importante. Alors encore, pourquoi? Parce qu'en fait, on a vécu exactement la même chose au début du mois de septembre. C'était à la rentrée. Faut pas trop chercher d'explications. On essaye toujours de trouver des explications a posteriori. C'est à cause des vagues en Chine. Ça n'a absolument d'ailleurs aucun impact sur les marchés traditionnels. Donc, on voit pas pourquoi ça aurait un impact plus sur les cryptos que sur les marchés traditionnels. Sachant qu'on connaît très bien la position de la Chine depuis un moment, d'ailleurs, sur ce marché des crypto-monnaies. Donc, pression baissière, oui, c'est pas nouveau. On en parle systématiquement ici. Le Bitcoin était déjà sous une pression baissière avant même, d'ailleurs, la panique acheteuse qu'on a connue le week-end dernier. Il devait, d'ailleurs, pour invalider cette pression baissière, repasser et s'installer au-dessus des 58 000, 60 000 dollars, ce qui n'a malheureusement pas eu l'occasion de faire. Donc, on remet aussi, d'ailleurs, en question la tendance haussière qui a été mise en place depuis cet été. Donc, aujourd'hui, oui, cette pression baissière, effectivement, vous l'avez dit, est encore intacte. D'ailleurs, tout à l'heure, on était à 50 000 dollars sur le Bitcoin, puis finalement, une heure après, on est à nouveau à 48 000 dollars. Donc, on sent quand même le marché est encore fébrile. On remet pour autant les pieds sur terre. Hein. Je rappelle que quand même le Bitcoin a perdu effectivement 30% depuis ses plus hauts historiques, hein, du coup, il y a un mois. Et on est toujours à 60% de performance depuis cet été. Pour autant, hein, je rappelle quand même que le Bitcoin, ça reste quand même pas le plus performant de l'ensemble du marché des crypto-monnaies.
Oui, justement, il y a d'autres crypto-monnaies. Il n'y a pas de roi sans cour autour de lui. La cour des crypto-monnaies, elle est composée de nombreux membres et nombreuses cryptos. Donc, comment se comportent ces autres cryptos? Vous évoquiez le Bitcoin. Sur le reste du marché, comment analysez-vous les signaux du moment?
Alors, aujourd'hui, on est à 2200 milliards de capitalisation totale. C'est plus que les 1900 milliards de dollars atteints au pire de ce mouvement de panique qu'on a eu le week-end dernier. C'est sûr que c'est moins bien que les records historiques qu'on a réalisés à 3000 milliards, donc il y a pile poil un mois. Alors on sait globalement qu'on est dans un range, une phase de latérisation générale depuis un mois, que les crashs sur le marché des cryptos, ça arrive encore, ils sont plus ou moins violents. On en a eu un, je vous disais tout à l'heure, au mois de septembre, on a mis un mois à s'en remettre. On en a eu un également au mois de mai, on était autour des 30 000 dollars sur le Bitcoin, on a mis deux mois à s'en remettre. Donc, oui, effectivement, le marché dans son ensemble est fébrile, mais aussi ça dépend déjà où est-ce qu'on regarde. Si on prend les plus faibles avant ce mouvement de panique, et j'en cite quelques-unes, Bitcoin Cash, Cardano, EOS, elles le sont encore plus après ce crash. On prend celles qui latéralisent depuis deux mois, Solana, Avax ou Sandbox, on avait parlé il y a deux semaines dans la catégorie Metaverse. On s'approche des bornes basses de ces ranges, on peut appeler ça en fait une neutralité positive, parce qu'en fait, les tendances de fond, elles restent toujours, à long terme, elles restent toujours haussières. Et si on prend les plus fortes, on prend par exemple Binance Coin, Luna, ou même d'ailleurs l'Ethereum, elles restent fortes, elles surperforment, voire même d'ailleurs elles se renforcent. Donc, ce qui est certain, si on l'a vu dans le passé, ce type de mouvement, au-delà du fait que ce soit récurrent, c'est vrai que ça décourage ceux qui sont trop exposés. Ça entraîne une sortie de marché. Ça encourage aussi ceux qui sont déjà exposés, finalement, et qui se sont fait peur de faire un petit peu le ménage, de sortir finalement, d'alléger leur exposition. Et ça encourage ceux, peut-être comme nous, qui ont une vision peut-être un petit peu plus objective, de dire « Ok, on est dans une pression baissière à court terme. Si on a des opportunités d'achat, pour le moment, on ne peut pas avoir d'objectifs trop ambitieux. » Donc, pour le moment, ça limite les velléités haussières. Donc, fébrile, oui, ça dépend depuis quand et où on se place. Et c'est vrai que ce week-end, ça arrive, je ne sais pas ce que vous avez prévu, Guillaume, ce week-end, mais ça risque d'être encore très volatile sur le marché des cryptos.
Alors, on va le suivre de très près, ce marché des cryptos. On va continuer de se projeter aussi en 30 secondes sur 2022. Xavier, est-ce que vous pensez ce qui est en train de se passer présage d'une année 2022 plus difficile, plus hétérogène, comme vous l'avez dit, où il va falloir peut-être, comme en bourse d'ailleurs, être beaucoup plus sélectif dans son choix crypto-monnaie?
Exactement, oui. On va avoir des thématiques qui vont se détacher, des rotations qui vont s'opérer. On le voit, comme j'ai dit, sur l'Ethereum qui résiste finalement beaucoup mieux que le Bitcoin. Certaines qui sont encore sur des records historiques, d'autres qui sont sur leur plus bas de 6 à 9 mois. Donc, je pense qu'il va falloir quand même faire reset sur l'attachement peut-être sentimental qu'on a eu en 2021 sur ses cryptos préférées. Et au-delà de la performance, finalement, se focaliser aussi sur celles qui sont en tendance haussière parce que, et qui résistent. Parce que psychologiquement, on se met dans une dynamique positive. Donc ça reste pour le moment toujours un marché passionnant, mais en toute humilité, c'est vrai que ça reste quand même un marché jeune, voire influençable. Donc toujours gestion du risque, modération, respiration sur des unités de temps longues. Et ça devrait bien se passer.
L'écosystème crypto, il continue de se constituer, bien sûr, et la semaine a encore été très riche. Visa lance une équipe de conseil dans la crypto. Autre signe, l'appli Revolut obtient sa licence bancaire en France. C'est toujours pas assez? Eh bien, Ledger, de son côté, annonce la sortie d'une carte de débit adossée aux crypto-monnaies. Elle permettra, cette carte, aux personnes possédant des crypto-monnaies de contracter un prêt en utilisant les cryptos en collatéral. Comment est-ce que cette nouvelle offre sera accueillie? D'abord, peut-être la base, Owen. Est-il risqué d'utiliser un prêt, utiliser en tout cas les crypto-monnaies en collatéral au sein d'un prêt, comme le propose cette nouvelle carte de débit?
Alors, il y a un risque quand on ne maîtrise pas les risques qu'il y a, tout simplement. Donc il faut les comprendre et donc il faut essayer de les expliquer simplement. Un collatéral, c'est comme une caution. On va déposer de la crypto-monnaie qu'on va bloquer. Et en échange de cette valeur qui est bloquée, comme un gage de confiance, une caution, on va nous prêter de la crypto-monnaie, ou du moins nous prêter un solde qui va permettre de dépenser avec la nouvelle carte que propose Ledger. Alors, on n'a pas tous les détails. On ne sait pas quelles crypto-monnaies vont être acceptées en collatéral, sur quelle hauteur, etc., etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va dépendre de ce que l'on laisse en caution. Je donne un exemple très simple et très parlant. Je dépose un bitcoin en caution, on va dire donc 50 000 $. C'est vous qui allez gérer du coup ce stock. Je les dépose et en échange, vous me prêtez 20 000 $. Pas de risque, vous savez que je vais revenir, je vous ai donné plus en caution que ce que j'ai obtenu. Par contre, imaginons maintenant qu'il y ait une baisse très violente dans la nuit et qu'on arrive à un moment où le bitcoin que je vous ai prêté, attention que j'ai mis en caution, donc en collatéral, vaille moins que ces 20 000 $ que vous m'avez prêté. À ce moment-là, vous pouvez liquider ma position parce que vous allez vous rembourser, tout comme la blockchain peut le faire dans les échanges décentralisés. Et à ce moment-là, il peut y avoir des pénalités de liquidation qui sont douloureuses. Mais la plupart du temps, on fait attention. On va jamais emprunter, on va emprunter bien moins que ce que l'on laisse en collatéral, surtout quand on laisse en caution des valeurs qui sont volatiles et dont la valeur de la caution peut changer très rapidement, voire même déposer en caution des stablecoins pour que ce soit plus stable. C'est ça qu'il faut avoir en tête.
Est-ce qu'il faut prendre Ledger à la légère, si vous me permettez ce petit jeu de mots, l'offre Ledger en tout cas à la légère, une carte de débit permettant d'emprunter en utilisant les cryptos pour collatéral clair? C'est un tout petit pas supplémentaire pour l'adoption des crypto-monnaies ou c'est un grand pas?
Alors, c'est quand même très intéressant parce que Ledger, c'est une entreprise qui a une force de frappe importante. C'est une des licornes françaises sur la crypto. Ils ont vendu, il me semble, à peu près 3 millions de portefeuilles physiques. Ils ont 1,5 million d'utilisateurs récurrents. Donc, il y a quand même une force de frappe assez importante, une force commerciale aussi importante. Donc, on peut imaginer que si Ledger met toutes ses forces dans la bataille sur cette carte, elle soit largement utilisée. Donc, ça va probablement favoriser l'adoption. Et on peut aussi trouver ça positif parce que les portefeuilles que vend Ledger, ce sont des cold wallets, des portefeuilles sur lesquels vous êtes responsable de votre crypto. Donc je dirais que ça respecte aussi l'idéologie initiale qu'il y a derrière les crypto-monnaies. Donc c'est responsabilisant pour l'utilisateur et c'est assez intéressant. On peut noter enfin que ce système de collatéral et de prêt, c'est aussi un moyen juridique, fiscal, d'éviter l'imposition, puisque quand vous déposez votre bitcoin en collatéral et que vous avez un prêt pour payer le commerçant en euros, il n'y a pas d'événement fiscal qui se fait, contrairement au transfert instantané, où là, effectivement, vous seriez imposé sur votre plus-value à 30%. Donc, ce n'est pas pour rien non plus qu'il y a cette fonctionnalité.
Ce n'est pas inintéressant. Alors, Cocorico, décidément, cette semaine, on a Ledger qui avance, et puis on a une autre entreprise française, Ubisoft, dans un tout autre domaine, qui a fait, elle aussi, sensation ces derniers jours. Ubisoft va sortir des NFT, des tokens non fongibles, utilisables dans le jeu Tom Clancy's sur la blockchain Tezos. Blockchain également, d'ailleurs, d'origine française, Claire. C'est plus où regarder, il a un vrai succès français cette semaine, en tout cas, et des annonces qui ont fait sensation pour le moins. À quoi serviraient ces NFT dans un jeu vidéo?
Alors, très bonne question. En fait, le jeu vidéo, il est passé par plusieurs phases. C'est un secteur qui a beaucoup évolué ces dernières années. Dans le jeu vidéo, il y a 20 ans, vous savez, on vendait des CD que vous mettiez dans votre ordinateur pour jouer. Et puis après, on a eu des jeux exclusivement numériques.
Vous avez connu, vous aussi, les CD?
J'ai connu aussi les CD. Je ne suis pas si jeune que ça. Ensuite, vous aviez des jeux numériques que vous achetiez.
Je ne suis pas sûr qu'Owen ait connu les CD.
Adibou. D'accord. J'y étais.
Et puis aujourd'hui, on a des jeux qui sont... qui sont gratuits, ou en tout cas qui sont à un prix assez faible, mais dans lesquels vous achetez des items pour vos personnages. Donc en l'occurrence, ces NFT dans ce jeu-là, ce sont des éléments qui vont vous permettre de personnaliser vos personnages, donc qui vont être émis de manière rare, donc il y aura un certain nombre de NFT, hein, ils ne seront pas émis à l'infini. Donc en l'occurrence, dans ce jeu-là, c'est des militaires que vous allez personnaliser, donc il y a un NFT qui, voilà, qui est une sorte de fusil qui va vous permettre de personnaliser votre personnage. Et on peut imaginer qu'à terme, ces NFT vous permettent, pourquoi pas, d'avoir plus de pouvoir dans le jeu, que vous puissiez les revendre à d'autres joueurs pour plus cher. Donc ça ouvre le champ des possibles en termes de fonctionnalités en fait, dans le jeu vidéo.
Et c'est nouveau de voir les NFT dans un jeu vidéo ?
Alors, c'est pas complètement nouveau, tout dépend de ce que vous appelez jeu vidéo. Par exemple, oui. Sorare fait déjà du NFT depuis un moment. Hein. Sorare, c'est des, vous savez, les cartes de joueurs de football avec lesquelles vous pouvez jouer. Alors, est-ce qu'on appelle ça du jeu vidéo ? Je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, les NFT, ce n'est pas nouveau et ça fait un moment qu'il y a du gaming avec des NFT.
Oui. Pourquoi utiliser les NFT, contrairement à peut-être ce qui se faisait avant ou
En fait, on va retrouver l'unicité et la rareté d'un objet dans un jeu. Alors que jusqu'à présent, l'objet pouvait avoir une certaine, on va dire, une certaine valeur dans le jeu, parce qu'il y a des gens qui payent pour avoir des apparences, pour avoir des armures, mais pas une unicité, pas une rareté. Là, l'objet dans un jeu peut être unique et pourrait, par exemple, servir dans un autre jeu. Et ensuite, le côté très innovant, c'est non seulement que c'est Ubisoft, c'est pas n'importe quel créateur de jeu qui fait ça, c'est l'un des mastodontes, qui plus est, un mastodonte français. En plus de ça, c'est basé sur la technologie du coup Tezos, donc on essaye d'utiliser une blockchain qui se veut décentralisée. Et en plus de ça, les NFT sont souvent liés à des photos ou à des fichiers vidéo qui sont assez lourds. Et pour stocker ça, on va utiliser la blockchain Aleph, qui est une autre blockchain, donc on pourrait faire ça dans une base de données, dans un data center centralisé, mais non, on va pousser la décentralisation le plus possible. Et donc on va utiliser Aleph, qui est une technologie également, une blockchain créée par un Français au passage, et qui du coup va vraiment permettre de proposer dans un jeu vidéo des objets qui sont uniques, rares, et qui sont, et c'est, on va dire que c'est vraiment le début, parce que ça ne m'étonnerait pas que dans l'intégralité des jeux vidéo à l'avenir, on ait un lien avec ces fameux NFT et que chaque objet dans le jeu ait bien sa rareté, un peu comme tous les objets qu'on a autour de nous aujourd'hui.
Oui, ça fait partie de ce monde nouveau qui est en train de se constituer. Certains parlent même de la fameuse planète B, qui à travers les NFT plus le métaverse, vous combinez, vous avez peut-être la planète B que l'humanité recherche. Vitalik Buterin, alors lui il est dans son monde peut-être, mais enfin c'est quand même un sacré inventeur. Vitalik Buterin, le russo-canadien, cofondateur d'Ethereum, lui aussi, il fait parler, il a publié un document présentant sa vision sur l'avenir de l'Ethereum. Le document s'intitule Endgame. On peut ajouter qu'énormément de crypto-monnaies ont profité des soucis que rencontre d'ailleurs Ethereum pour émerger, pour se développer. Que se passe-t-il ? Quelles sont les raisons de ce phénomène, Owen ?
En fait, c'est très simple. Ether est l'une des plus grosses blockchains qui a ouvert le champ des possibles sur les différents usages que l'on pouvait avoir avec la décentralisation, la transparence, etc.
Les smart contracts.
C'est également ça. C'est également lui qui a donné.
Je peux faire le malin maintenant. J'ai lu 2-3 livres. Alors.
D'un point de vue purement littéraire, le mot smart contract n'est pas adapté. Ah, mais en réalité, c'est bien ce que tout le monde entend derrière.
C'est la pub. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Voilà,
oui. Mais en attendant, oui, c'est ce que les gens entendent derrière ce mot-là, et c'est le cas. C'est vrai. En attendant, une chose est certaine, c'est que plein de blockchains peuvent se lancer aujourd'hui et utiliser les toutes dernières technologies dernier cri. Être rapide, scalable, peu coûteux, et se baser sur les échecs et le défrichage de tous les autres projets avant eux pour lancer quelque chose de bien plus fonctionnel à l'instant T. En attendant, Ether n'a pas que cette transition à faire. Ether, c'est non seulement l'une des blockchains qui a montré le plus de possibilités, donc qui a proposé le plus d'outils pour la première fois, donc des anciennes versions qu'on doit aujourd'hui mettre à jour, et en plus, c'est l'une des plus utilisées. Donc là où beaucoup de gens vont en gros créer la blockchain parfaite, la voiture de course, mais commencer de rien du tout, en prenant que les meilleures évolutions et innovations, Ether, lui, doit faire cette mise à jour, mais en continuant de livrer les services qu'il propose dès aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il est en retard. Et c'est pour ça que beaucoup de blockchains arrivent et dépassent Ether d'un point de vue de la performance à l'instant T, simplement parce qu'Ether ne peut pas brûler les étapes. Ether doit évoluer et donc doit proposer un nouveau moteur tout en proposant toujours les services et en assurant la disponibilité qu'il propose aujourd'hui. La décentralisation, la transparence, etc. C'est pour ça que son retard, qui n'en est pas vraiment un, c'est juste que le monde va beaucoup trop vite. Et cette évolution laisse le champ libre à quelques projets très agiles qui peuvent se positionner aujourd'hui, tout de suite, maintenant.
C'est très darwinien, hein, la façon dont fonctionnent les crypto-monnaies et la blockchain, ces évolutions technologiques, c'est très fort. Et on parle souvent de disruption créative. actrice. On est en plein dedans. Justement, est-ce qu'on pourrait apporter encore plus d'illustrations? Est-ce que vous pourriez nous donner, Claire, deux, trois éléments à retenir de ce document qui s'appelle donc Endgame, ce document sur l'avenir d'Ethereum que Vitalik Buterin a déployé et publié?
Oui, alors c'est un document assez technique, en fait, hein, qui ne s'adresse pas au grand public. Vitalik Buterin, c'est vraiment c'est le pape technicien qui est derrière Ethereum. Donc, c'est vrai que c'est un papier qui s'adresse plutôt à des spécialistes. Ce qu'on en retient, à mon sens, c'est deux choses. Déjà, il ressort quand même du papier que Vitalik Buterin considère qu'Ethereum est éminemment bien placé parmi les autres blockchains pour cette compétition entre les différents standards, puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup d'utilisation et il y a de fortes évolutions à venir sur Ethereum. Et le deuxième point, je dirais, saillant, c'est que dans ce rapport, on parle beaucoup de ce qu'on appelle les layer 2, donc les deuxièmes couches qui fonctionnent par-dessus les blockchains pour résoudre ce problème de scalabilité. Vous savez que sur les blockchains, parfois, le volume qui est traité est insuffisant pour gérer toutes les applications. Et donc, un des grands enjeux techniques en ce moment, c'est d'arriver à scaler les différentes blockchains. Et donc, la communauté Ethereum travaille largement là-dessus. Et dans ce papier, ce qu'on voit bien, c'est que Vitalik Buterin considère que la vision finale d'une blockchain, c'est une vision qui intègre ces layer 2, ces deuxièmes couches, et que finalement les blockchains qui ne résonnent qu'en layer 1, donc qu'avec la première couche, la blockchain elle-même, finalement, c'est un peu un vœu pieux, c'est des blockchains qui n'arriveront jamais à scaler. Donc, sans vouloir me prononcer sur est-ce qu'il a raison ou pas, c'est quand même quelqu'un qui a une vision depuis le début, qui est là depuis 2015, qui est très très estimé sur le plan technique, et donc c'est intéressant d'avoir sa vision finale, hein. Endgame, c'est un peu ça, c'est l'architecture finale d'Ethereum telle que lui la voit.
Et on répond chaque semaine, ou le plus souvent possible en tout cas, à vos questions aussi. N'hésitez pas à nous les envoyer, vos questions sur cet univers des crypto-monnaies et de la blockchain. Vous pouvez nous les envoyer sur notre site bfmbusiness.com. Par exemple, Morgan nous a écrit, il nous projette cet auditeur dans le futur et pose, je trouve, une question assez intéressante sur l'avenir du Bitcoin et la solidité peut-être même à long terme, à très long terme du Bitcoin. Quid de la difficulté à miner les Bitcoins et donc aussi de sa valeur et sa sécurité le jour où l'informatique quantique débarquera? Il permettra à l'informatique quantique de démultiplier les opérations, rendra sans doute le minage de Bitcoin beaucoup plus facile qu'aujourd'hui, nous dit cet auditeur. En quoi l'ordinateur quantique représente-t-il donc une menace pour la puissance de calcul sur le Bitcoin? Claire.
Alors c'est une question qu'on me pose tout le temps, hein. À chaque conférence, effectivement, où je parle de Bitcoin, j'ai toujours cette question sur l'ordinateur quantique qui arrive. C'est vrai qu'il y a un grand fantasme déjà sur le fait que l'ordinateur quantique va arriver du jour au lendemain. Et que comme ça, d'un coup, on va se retrouver un jour avec un ordinateur quantique qui va arriver. Et souvent, ce qu'il y a derrière cette question, c'est le fantasme que l'ordinateur quantique, le jour où il va arriver, va permettre à des gens de hacker Bitcoin. De se dire, on va avoir une puissance de calcul tellement grande, puisque c'est ça l'ordinateur quantique, hein, c'est une puissance de calcul qui est quand même largement plus grande que les ordinateurs d'aujourd'hui. Eh bien, ces ordinateurs-là vont permettre de faire du minage beaucoup plus rapidement, de prendre le dessus sur les mineurs actuels, peut-être de faire des attaques à 51% sur le réseau Bitcoin ou sur les autres crypto-monnaies. Donc, la crainte principale, c'est ça. C'est de se dire, des ordinateurs quantiques vont arriver, on ne sait pas trop où, du jour au lendemain. Leur première préoccupation, ce serait d'aller hacker tout de suite les différentes blockchains. Alors, c'est très binaire, en fait, comme vision, puisque l'ordinateur quantique, on en est encore loin. Et puis, à mon sens, le jour où ça arrivera, les communautés Bitcoin et autres sauront aussi évoluer en prenant en compte ces nouveaux aspects techniques.
Bon, la menace vous semble donc pour l'instant assez éloignée, peut-être éloignée, mais bien réelle quand même. Owen, l'échelle de temps du Bitcoin, ça nous projette au-delà de 2100. On imagine que d'ici là, le quantique sera apparu.
Alors, je ne veux pas faire de demi-réponse. Je sais qu'on est en fin d'émission. Combien de temps j'ai devant moi?
Vous avez 3 minutes.
J'aurais pas
demandé 4, vous aurez 3:30.
Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, on parle d'informatique quantique. Pour 90% des gens, on comprend pas de quoi on parle. On comprend pas, c'est très abstrait, c'est une technologie, on est perdu. Déjà, il faut comprendre qu'est-ce qui fait peur d'un point de vue de la sécurité, du Bitcoin, de l'informatique et de tout ça. Pour faire très très simple, aujourd'hui, ce qui fait vraiment peur, ce serait un problème de brute force. Imaginons que je sais que vous ayez un compte sur un site internet, je connais votre adresse email parce qu'on a déjà parlé, mais j'ai pas votre mot de passe. Je pourrais essayer toutes les combinaisons possibles. 00001, 00002, bon, ça va prendre beaucoup de temps. Mais un ordinateur puissant, lui, pourrait essayer toutes les combinaisons beaucoup plus vite. Encore une fois, vous mettez des chiffres, des lettres, des caractères spéciaux, et vous avez 12 ou 13 caractères dans votre mot de passe, même le meilleur des ordinateurs va prendre des années à trouver. Le problème de l'informatique quantique, c'est qu'elle peut paralléliser une une puissance quantique maîtrisée permet de paralléliser et donc qu'il y ait 12 ou 29 caractères à votre mot de passe. On peut tout tester d'un coup, trouver la bonne connexion et l'appliquer. Donc là déjà, ce qu'il faut se rappeler, c'est que si jamais un jour on arrive à maîtriser, ça s'appelle la suprématie quantique du coup, hein, c'est-à-dire réaliser avec des calculs quantiques de meilleurs résultats que ce qu'on pourrait avoir avec de l'informatique traditionnelle, eh bien déjà, on aurait des gros problèmes partout. Sécurité militaire, sécurité bancaire, bien plus de choses que oh, qu'est-ce que ça va donner pour le Bitcoin ? Première chose. La deuxième chose, c'est qu'avec ça, on pourrait créer de la valeur dans des voies magnifiques. On pourrait plier des protéines et tester des différentes solutions pour soigner des cancers. On pourrait créer de l'argent, de la richesse en faisant le bien. Pourquoi choisir le mauvais côté ? En plus de ça, pour finir, il y a quand même des tarés qui travaillent sur des algorithmes de sécurisation de blockchain quantum résistants, qui pourraient résister à de la puissance quantique. Il y a même des gens qui ont été sur la transmission d'un mot de passe, faire en sorte qu'il soit transmis avec un laser, parce que le quantique, c'est pas des 0 et des 1, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas consulté la variable, on sait pas si c'est un 0 ou si c'est un 1, et donc si on regarde, si on essaye de hacker et de recevoir l'information et de voir le mot de passe, ben, en le consultant, ben, il est plus bon parce qu'on l'a regardé. Donc on lui a forcé à prendre une forme. Il y a énormément de choses, c'est vraiment très passionnant, c'est vraiment puissant, mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que, un, ce serait bien dommage, parce que même si quelqu'un arrivait à la tête et déjà maîtriser l'informatique quantique, c'est une chose, maîtriser l'informatique quantique, on va pas lancer Windows, hein. C'est pour des calculs très particuliers, très complexes, on peut pas juste lancer un mineur de Bitcoin, injecter de l'informatique quantique et c'est parti, on y va. Non, les premières exploitations concrètes ont eu lieu il y a quelques mois. Google a réussi à obtenir la suprématie quantique, c'est-à-dire que sur certains calculs, ils ont réussi à faire mieux qu'un ordinateur traditionnel. On est à des années-lumière de pouvoir maîtriser l'informatique quantique pour en faire ce qu'on veut, surtout pour ce genre de calcul. Et même si ça arriverait un jour, un, ce serait dommage de l'utiliser pour faire du mal, alors qu'on pourrait faire tellement de bien avec cette puissance.
L'humanité reste humaine.
Voilà. C'est sûr, mais si quelqu'un arrivait à avoir cette puissance pour abuser de Bitcoin, le réseau resterait transparent. Si quelqu'un arrivait, par exemple, à miner tous les blocs instantanément avec cette puissance phénoménale, instantanément, tout le monde verrait que le réseau Bitcoin n'est plus sécurisé, quelqu'un en abuse, et cette personne serait devenue le roi d'un monde qui n'a plus aucune valeur de par sa faute. Et ça, c'est quand même l'une des grosses résiliences de Bitcoin, c'est-à-dire que personne n'est incentivé à en abuser, même la personne qui en a les moyens.
C'est ça. En fait, il n'y a aucun intérêt économique à aller essayer de détruire Bitcoin. Ça ne peut être qu'un intérêt politique.
Il y a des anarchistes, mais pour le coup, si on utilise une puissance aussi forte sur Bitcoin, on espère quand même en tirer quelque chose. Et là, le modèle a été fait pour que le plus requin de tous les requins n'ait pas d'intérêt à prendre la majorité et à prendre le contrôle de Bitcoin. C'est un système qui n'a de valeur que si tout le monde le consent et que s'il reste finalement démocratique.
Bon, vous y croyez dur comme fer toujours, même à l'échelle de temps du Bitcoin, au-delà des 21 millions, on arrivera à quel moment à 21 millions de...
2140.
Il y a des gens qui vont trouver des solutions pour les autres dérives potentielles de l'informatique quantique qui seront applicables à Bitcoin. Parce qu'il y a bien plus grave à l'instant T tout de suite que Bitcoin si on maîtrise l'informatique quantique.
Les pros des cryptos, c'est chaque vendredi. Merci à tous les deux et ça nous fait du bien cet enthousiasme et surtout se projeter dans l'avenir. L'avenir, on en est tous certains de passer le restant de nos jours. On vous y prépare chaque semaine sur BFM Business. Owen Simonin, Just Mining, sa société qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre à Paris depuis sa Moselle chérie, connue aussi pour sa chaîne YouTube Asher. Merci beaucoup Owen, à Claire Balva aussi nous accompagner. Merci Claire de venir en plateau nous rencontrer tous les vendredis, cofondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain et crypto pour KPMG France. Puis Xavier Fonneau aussi était en ligne avec nous depuis Interactive Trading. Salut, bon week-end à tous les trois. Le CAC 40 est toujours en train d'hésiter. On va clôturer cette semaine néanmoins sur un solde largement positif, solde hebdomadaire largement positif. En tout cas, si on continue à perdre que 0,2%, moins 0,2 actuellement sur le CAC, Wall Street de son côté progresse un peu. On s'en reparle dans un instant. On va se projeter sur 2022. Quel potentiel sur les marchés en 2022? Ce sera le thème principal du club. Dans un instant, on viendra aussi sur quand même les chiffres d'inflation toujours spectaculaires aux États-Unis. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.